Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour, nous allons ouvrir une nouvelle page de notre Bible et nous allons nous intéresser à un sujet particulier qui est particulièrement la manifestation de certains dons de l'Esprit. Alors la première lecture que nous pouvons entreprendre ensemble, c'est dans le livre 1 Corinthiens chapitre 12 et à partir du verset 4, je lis ceci. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Alors c'est l'apôtre Paul qui nous donne cette liste des manifestations de l'Esprit, l'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et j'aimerais faire ou joindre à cette première lecture une seconde que nous allons entreprendre maintenant dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. Et je vous demande de nous situer dans 2 Rois, chapitre 6 et verset 8. Nous allons donc mettre en corrélation cette première lecture, ces enseignements, ces principes des dons spirituels avec une histoire qui montre en quelque sorte la véracité, la réalité de cette manifestation, de ces manifestations surnaturelles venant de Dieu et au service des hommes. Voilà donc deuxième lecture, 2 Rois chapitre 6. Verset 8, c'est une histoire qui est assez étonnante, mais qui tente à prouver, et qui, en quelque sorte, est un prélude de ce que Dieu fera dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus, et à travers la Pentecôte, à travers ces dons spirituels. Donc, j'ai devant les yeux ce texte, et nous allons lire à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois, on peut comprendre qu'il y a eu plusieurs fois naturellement, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, au roi mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui était en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Ils arrivèrent de nuit et ils enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Nous avons là, toute une histoire particulière qui nous est rapportée à travers, ce livre des rois, une histoire ancienne. Mais je pense que cette histoire met en évidence le principe que nous avons lu sous la plume de l'apôtre Paul il y a quelques instants et qui nous montre, qui fait la démonstration de la révélation et de la mise en évidence du fonctionnement des dons de l'esprit. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que nous allons passer en revue, cinq dons actifs qui nous sont enseignés, nous l'avons lu, parmi les neuf qui ont été proposés dans la lecture de Paul, il y en a cinq que j'aimerais mettre en évidence pour chacun d'entre nous et qui sont contenus dans ce texte que nous venons de lire dans le livre des rois. Cinq dons donc activés. Je recommence dans le commentaire, ou je commence le commentaire à travers les versets que nous avons égrenés il y a quelques instants. Et voilà que il nous est simplement rappelé, il nous est dit que le roi de Syrie, et on peut se souvenir que la Syrie a toujours été l'ennemi héréditaire du peuple d'Israël de tout temps, et il nous est dit que le roi de Syrie qui régnait à l'époque était en guerre avec Israël, et comme il était en guerre, il a tenu un conseil avec ses serviteurs pour savoir quelle stratégie adopter, comment les choses pourraient se faire pour vaincre l'armée d'Israël. Et le roi donc de Syrie a dit mon camp sera dans tel lieu. Il avait pris position dans ce conseil de guerre avec ses généraux, avec ses officiers, et il avait pris la décision, il avait donc arrêté le lieu où il pourrait favorablement, avec succès, vaincre l'armée d'Israël dans telle situation, dans tel endroit. Et il s'était dit, si nous faisons les choses de cette manière, nous allons pouvoir soumettre Israël. Donc, nous voyons que là, il y a là tout simplement, dans ce conseil, quelque chose, une stratégie militaire, stratégie de guet-apens, naturellement, et dans le plus grand secret. En principe, quand les généraux déterminent un plan d'invasion ou un plan de guerre, en principe, ça reste dans le plus grand secret. Et ça, c'est à souligner parce que nous allons voir que, quand les hommes font des secrets, Dieu est capable de les révéler lorsque cela est nécessaire. Donc, stratégie de guet-apens. Un peu plus loin, nous avons au verset 9 la suite, naturellement, mais il nous est simplement dit, en quelque sorte, ce qui se passe dans un endroit peut être connu dans un autre. Et l'homme de Dieu, qui n'était autre que le prophète Élisée, il nous est dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Nous voyons que Dieu avait ce serviteur en Israël, et il a reçu donc une révélation. Une révélation de la stratégie des Syriens pour envahir Israël. Et ça a été quelque chose, naturellement, dont nous allons voir les suites et les conséquences, qui sont très intéressantes. Donc, Élisée, homme de Dieu, reçoit une parole de sagesse. Parce que nous pouvons dire que, nous allons donner une explication de ce qu'est la parole de sagesse. Comme Paul nous explique, à l'un est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, le don de foi, le don des miracles. Enfin, on y reviendra pour les autres. La parole de sagesse, si nous pouvons la définir, nous pourrions peut-être la déterminer de cette manière. La parole de sagesse est une parole surnaturelle, quelque chose qui est en dehors de la connaissance et des capacités humaines de connaître et de savoir. Donc, une parole surnaturelle, c'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu sait dans sa sagesse, et elle est communiquée donc à des hommes, entre autres dans le texte que nous avons devant nous, elle est communiquée au prophète Élisée, et elle révèle. Elle révèle des pensées, elle révèle la volonté divine, elle révèle les plans de Dieu et ses intentions, et elle guide vers les choses spirituelles pour Eh bien, un choix, soit un choix, une décision, un règlement du problème, etc., etc. Lorsque nous regardons, eh bien, ce que nous avons lu, Élisée, à ce moment-là, lorsqu'il a reçu cette révélation de ce qui se passait dans le secret, là, dans le comité et dans les proches, auprès des proches du roi de Syrie, il nous est dit, eh bien, voilà, tout simplement, il a fait dire au roi d'Israël, il a fait prévenir, il lui a dit, mais garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Ça voulait dire tout simplement, eh bien, qu'il y avait là un guet-apens, il y avait là une attaque surprise, et que si les armées d'Israël passaient par cet endroit, eh bien, elles seraient vaincues. Alors, était-ce tout simplement une région montagneuse avec des ravins, avec des précipices, un goulot étroit où l'armée d'Israël pouvait s'engager, et puis que, eh bien, là, les Syriens s'étaient mis au-dessus et pouvaient vaincre facilement, eh bien, le roi, donc, d'Israël. Donc, dans le plus grand secret. Ensuite, nous avons justement dans cette parole de sagesse quelque chose qui est très intéressant parce que ça se trouve dans le livre d'Amos et au chapitre 3 et au verset 7, et ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui encore. Il nous est dit cette parole, et c'est rassurant, c'est une véritable consolation. Il nous est dit, car le Seigneur, donc Amos chapitre 3 verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ? Quand Dieu parle, eh bien, il parle pour être compris. Il parle pour avertir, il parle pour consoler, il parle pour tout simplement, eh bien, diriger, prendre des décisions, résoudre des problèmes, c'est ce que nous avons dit il y a un instant, mais je remarque une chose, et le texte nous le dit bien, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et moi, je crois qu'encore aujourd'hui, eh bien, Dieu parle encore, et il parle à ses serviteurs, à ceux qui sont en capacité de se tenir tranquille, d'écouter, et de laisser faire Dieu, et de leur donner les indications nécessaires. Ça, c'est quelque chose, c'est une révélation, c'est quelque chose de très important. Dans le psaume, eh bien là, 34, il nous est dit simplement que Dieu dit à ses serviteurs, et il dit à tous ceux qui veulent bien l'entendre, « Je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Ce sont des vérités intemporelles, des révélations que Dieu donne dans la mesure où nous sommes à l'écoute, nous nous tenons dans la patience et que nous sommes décidés à obéir au Seigneur. C'est quelque chose donc, eh bien là, d'une grande importance pour nous encore aujourd'hui. Ça fait partie, finalement, des dons de l'Esprit, simplement. Nous allons continuer et nous allons voir au verset 10, eh bien, la suite. Il nous est simplement rappelé, et le roi d'Israël, naturellement, en conséquence, envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et je précise, le texte le dit, cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Ce que nous avons là, c'est que le roi d'Israël, cette fois-ci, a su écouter, eh bien, ce que lui disait le prophète. Et il a voulu vérifier, tout simplement, eh bien, les faits qui étaient dénoncés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le prophète se trompe? Est-ce qu'il raconte une histoire? Est-ce qu'il y a là de la véracité dans ce qu'il dit? Et le roi d'Israël, peut-être, a été pris de doute au départ, et puis de prudence, naturellement, ou est-ce tout simplement de la foi? Il a fait confiance. Alors, il a envoyé naturellement un détachement, des éclaireurs, on pourrait dire aujourd'hui, tout simplement. Et donc, il a envoyé donc dans ce lieu particulièrement qui avait été indiqué par révélation pour observer, pour savoir. Et la chose a été confirmée parce que quand ces émissaires, quand en quelque sorte ces espions sont arrivés, ils ont vu que certainement, eh bien, toute la contrée était pleine de l'armée, des soldats de l'armée de Syrie. Et ils ont pu revenir une fois, plusieurs fois, et ils n'ont pas contrôlé ça simplement, eh bien là, au singulier, mais ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et quand ils sont revenus vers le roi d'Israël, ils lui ont dit, mais c'est vrai, nous avons vu, nous avons constaté qu'il y a là, eh bien, une multitude de soldats syriens, et ils nous attendent, ils attendent que nous passions par là pour que, tout simplement pour nous attaquer, et c'est un véritable guet-apens, et peut-être en précisant, eh bien, tout simplement, eh bien, ce que le prophète Élisée a dit, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Un peu plus loin, nous avons également, dans le verset suivant, il nous est dit que le roi de Syrie en eut le cœur agité, on peut le comprendre, parce que ce qui avait été concerté, ce qui avait été comploté dans le plus grand secret, hein, on peut se l'imaginer dans le conciliabule précédent, eh bien que finalement, il était complètement désemparé parce qu'il s'est dit, mais c'est resté entre quelques personnes, entre moi, mes généraux, etc., etc. Et puis voilà que maintenant, eh bien, le roi d'Israël, le peuple d'Israël sait ce qui se passe. Hein, c'était véritablement, eh bien là, quelque chose qui pouvait être très troublant. Mais cela souligne une chose qui est enseignée dans la Bible, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Nous ignorons beaucoup de choses en ce qui nous concerne, nous les hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu sait tout. Dieu connaît tout et sa présence remplit le ciel et la terre. Hein, c'est ce que on appelle ça de l'omniprésence également. Omniprésence divine. Et nous voyons que cette connaissance, cette révélation surnaturelle de ce secret qui normalement était bien caché, eh bien, va faire trembler l'ennemi. Face au plan de Dieu, au plan de Dieu qui sont révélés. C'est l'apôtre Paul qui dira dans une de ses lettres, il dira « Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et ça, c'est encore une vérité qui ressort, encore aujourd'hui, de savoir que, quelque part, eh bien, nous sommes souvent dans l'inconnaissance, dans la méconnaissance des choses. Nous connaissons notre histoire, nous connaissons notre passé, nous connaissons notre présent parce que nous vivons. Mais quant à notre avenir, nous ne le savons pas. Mais Dieu sait les choses, et surtout quand il y a un danger. Hein, il nous est rappelé également dans un psaume, des poèmes de la Bible, il nous est dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Donc nous en avons encore la manifestation et la situation donc qui nous est présentée. Donc le roi Cyril eut le cœur agité, troublé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que tout le monde pourrait faire lorsqu'un secret est dévoilé. C'est qu'il a pensé à la trahison de l'un de ses officiers, l'un de ses proches. Alors, il a appelé ses serviteurs, hein, il a fait un briefing, on pourrait dire, et il leur a tout simplement posé la question, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous, lequel de vous est pour le roi d'Israël? La question était à poser naturellement. Hein, est-ce qu'il n'y avait pas un traître? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un, un comploteur? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un là infiltré au service du roi d'Israël pour savoir les choses? Tout simplement. Alors, on peut comprendre naturellement, eh bien là, cette agitation. L'un de ses serviteurs, je poursuis, l'un de ses serviteurs répondit, mais personne, au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors, là, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Élisée va faire la manifestation d'un deuxième don, manifestation d'une deuxième parole qui est une parole de connaissance. Le prophète rapporte les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors imaginez-vous que l'image de la chambre à coucher, c'est l'image de l'intimité, c'est l'image véritablement de ce qui peut être le plus secret. Hein, et ça c'était certainement eh bien époustouflant, troublant que un de ses serviteurs lui dise mais non hein, non absolument pas, personne n'est traître en Syrie, personne ne t'a trahi, mais moi je voudrais te dire que il y a un prophète en Israël. Ce prophète s'appelle Élisée et il a la connaissance des choses de Dieu. Il a la connaissance des mystères humains. Il a la connaissance de ce que toi tu dis, des décisions que tu prends, même jusque dans ta chambre à coucher, c'est-à-dire dans ta plus grande intimité, eh bien les choses sont connues parce qu'elles sont révélées du ciel. La parole de connaissance, on peut peut-être la définir de cette manière. On a parlé de la parole de sagesse, donc qui guide vers les choses spirituelles pour un choix, une décision, un règlement de problème, etc. La parole de connaissance est différente en ce sens, c'est que elle fait connaître quelque chose de caché dans le présent. C'est-à-dire que c'est pas une histoire du passé, c'est pas en quelque sorte une vision pour l'avenir, mais c'est quelque chose de caché dans le présent. C'est une pensée secrète d'un cœur. C'est l'existence d'une chose, c'est l'existence d'une personne ou c'est l'existence d'un fait qu'on ne peut savoir autrement que par l'intervention divine. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Il dit, voilà, hein, les Syriens vont s'embusquer dans tel endroit, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose qui est une réalité, et il a été le dire au roi d'Israël pour que, eh bien, dans ce moment-là où vous êtes en faction, une armée entière pour saisir Israël, pour vaincre l'Israël, c'est une chose au présent. Et nous voyons, et ça souligne, eh bien là, eh bien une chose, et ça ne peut être révélé, parce qu'on ne peut pas le savoir autrement, que par l'intervention et ce que Dieu nous révèle. Donc ça, c'est une parole de connaissance. Le verset 13 nous poursuit et nous dit ceci, « Et le roi dit, allez et voyez où il est. » Alors le roi de Syrie, naturellement, hein, qui est particulièrement aux abois, troublé, il est véritablement sans dessus-dessous. Alors le roi de Syrie dit, « Allez et voyez où est le prophète. » Je traduis un petit peu, hein, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » Alors quand on comprend la signification de l'ordre que le roi de Syrie donne, ça veut dire « je le ferai pendre » ou « je le ferai exécuter ». Je vais me débarrasser de lui, je vais l'exterminer, comme ça je vais faire taire la voix, eh bien, qui parle. La voix qui dit les choses, la voix de la vérité, la voix de ce qui est juste. Je vais le faire prendre. Alors on va lui dire, à ce moment-là, eh bien, le prophète Élisée, il est dans une ville d'Israël, il est à Dothan. Voilà. Alors, donc on a localisé finalement le bavard, hein, on a localisé celui qui dit la vérité et les vérités de Dieu, celui qui a été rapporté toutes ces choses secrètes au roi d'Israël et dont le roi d'Israël a esquivé finalement, eh bien, la défaite, hein, une défaite certaine, en ne se présentant pas parce qu'il était averti à l'avance qu'il y avait un danger, qu'il y avait un péril. Voilà, je le ferai prendre, nous l'avons vu il y a un instant. Le roi de Syrie, il est furieux à ce moment-là. Hein, il est complètement sans dessus-dessous. Et il va engager, avec ce que nous allons voir d'ici peu de temps, eh bien là, une armée entière pour tenter d'éliminer le prophète Élisée. C'est-à-dire se débarrasser de la vérité qui est révélée. C'était une vérité incontestable. Et nous allons voir un peu comment ça se passe par la suite. Alors le roi de Syrie, envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà. Donc, pour prendre un seul homme, pour prendre le prophète Élisée, donc un seul homme, il nous est simplement signalé que le roi de Syrie a déployé ses forces entièrement. Donc des chevaux, des chars, une forte troupe. Tout ça pour un seul homme. Et ils sont arrivés incognito de nuit, dans l'obscurité, et là ils ont fait le tour de la ville de Dothan en disant, eh bien, de toute façon, que ce soit par une porte ou par une autre, eh bien, nous allons mettre la main sur le prophète Élisée, il ne pourra pas se sauver, il ne pourra pas s'enfuir, parce que nous allons le rattraper. Et il est tout seul. Et nous sommes, eh bien, une force armée considérable. Il y a un épisode qui surgit à ce moment-là et qui va nous montrer encore, eh bien là, certaines vérités des dons de l'esprit. Il nous est simplement dit que le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire que Élisée avait un compagnon, il avait quelqu'un qui était attaché à sa personne, le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, ce jour-là s'est levé de bon matin, au petit à l'aube, et il est sorti, tout simplement. Et quand il est sorti, il est certainement fait un petit tour sur les murailles de la ville de Dothan, et là, quelle n'a pas été sa stupeur, sa frayeur même, parce que quand il a regardé ce qu'il y avait, finalement, hors des murs, partout, tout était noir de soldats, tout était rempli d'hommes en armes, et il est sorti, et le texte nous dit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur, donc, dit à l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Alors là, c'est quelque chose que, c'est pas une révélation, c'est ce que les yeux voient, c'est ce que les yeux constatent. Et dans des périls, dans des dangers, qu'est-ce que l'homme fait? Eh bien, il a peur, il craint, il est complètement déconcerté et il pousse ce cri, « Mais que ferons-nous, hein? Sauve-nous, hein? Qu'est-ce que l'on peut faire ?» Et c'est tout à fait, eh bien, ce qui est humain. Et nous pouvons dire que ça, c'est la frayeur que causent les yeux de la chair, c'est-à-dire le visible, ce que nous appréhendons avec nos sens, avec nos yeux, ce que nous voyons. Et quelquefois, ce que nous voyons, eh bien, peut nous faire peur, Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que l'on est? Qu'est-ce que l'on va devenir? Qu'est-ce que l'on peut faire? Quand vous voyez, eh bien là, des forces militaires, des forces en armes qui sont venues pour vous, pour, eh bien là, vous faire périr, qu'est-ce que l'on peut faire? D'ailleurs, le cri est tout à fait significatif, mais dira-t-il à son maître, à Monseigneur, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes perdus. Nous sommes complètement, eh bien là, dans l'impossibilité de nous en sortir. C'est pas possible. Deux, un contre une multitude, c'est pas possible. Alors, voilà la réponse qui est donnée par le prophète Élisée, qui est très très intéressante, parce que je pense que c'est là où nous atteignons encore à la manifestation et que nous voyons la réalité, tout simplement, eh bien, le fonctionnement d'un autre don spirituel, dont je vais vous donner le nom d'ici quelques instants. Alors, verset 16 nous dit ceci, « Ne crains point », c'est le prophète qui parle à son serviteur, « ne crains point ». Ça nous rappelle souvent les paroles de Jésus dans l'Évangile, dans un domaine ou dans un autre où les disciples étaient en péril, par exemple sur le lac. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ah, ça, c'est une affaire qui est tout à fait particulière et qui mérite d'être signalée. « Ceux qui sont avec nous », c'est-à-dire, pourtant ils étaient que deux, eh bien, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il y a la réalité des choses matérielles, visibles, qui peuvent nous impressionner, mais le chrétien, le croyant, a une autre raison de voir les choses. Il ne les voit pas avec les yeux de sa tête, il les voit avec les yeux de son cœur, et il se nourrit de la parole de Dieu, des promesses, finalement, de sécurité, des promesses de confiance, des promesses que Dieu lui a faites, que quoi qu'il en soit, dans quelque péril que ce soit ou quelque danger, eh bien le Seigneur est présent et que le Seigneur est capable finalement de nous délivrer, même dans les cas extrêmes, même dans les situations impossibles, nous pourrions dire. Et devant cette frayeur du serviteur de Dieu, parce qu'il voit avec ses yeux de la chair, la réponse est donnée, c'est le repos et la paix des yeux de l'Esprit. C'est ce que nous pourrions peut-être mettre en parallèle, là, tout simplement le repos et la paix des yeux de l'Esprit. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le prophète Élisée à ce moment-là, eh bien, va dire et rassurer par la révélation qu'il vient d'avoir de ce que l'homme, son serviteur, ne voit pas et de ce que Élisée voit à ce moment-là. Il lui assure qu'il n'a rien à craindre. Qu'il peut y avoir une armée, l'armée de Syrie en l'occurrence, il peut y avoir de nombreux soldats en armes, mais finalement qu'il y a dans le ciel, qu'il y a dans les lieux célestes, qu'il y a en effet eh bien dans ce monde invisible, quelque chose qui est encore plus fort que les forces et les puissances humaines, ceux qui sont avec nous. Et ça, nous atteignons maintenant eh bien là le don de foi, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le don de foi? Le don de foi, eh bien c'est tout simplement... C'est cette armée qui vient contre tous, contre ces deux hommes, Élisée et son serviteur. Et le don de foi, c'est, je le donne en définition, le don de foi, c'est la capacité surnaturelle de croire sans douter. Donc c'est une certitude, c'est une assurance spontanée, immédiate que nous avons dans le cœur, qu'une chose va arriver. Qu'une chose va se produire alors que les circonstances sont absolument contraires, humainement parlant. Et c'est le cas. Nous voyons que comment peut-on faire devant une telle opposition? Comment peut-on faire devant un tel péril, un tel danger où finalement, eh bien, il n'y a aucune chance de s'en sortir? Je le rappelle, c'est Dieu qui donne surnaturellement de croire à l'intérieur de nous-mêmes sans douter. C'est-à-dire que nous sommes là, eh bien, dans la paix, en quelque sorte, une paix qui, contrairement à ce que, humainement parlant, nous serions dans la terreur et dans le trouble, c'est que il y a quelque chose qui va se produire, alors que les circonstances, eh bien, nous disent le contraire. Mais c'est une paix profonde. C'est une paix qui est le résultat, eh bien, là, de la foi dans la grâce de Dieu, que Dieu fait grâce et que Dieu délivre. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est cela, la parole de foi. Nous allons aller encore un peu plus loin, nous allons prendre par exemple la suite, ça coule de source. Alors Élisée, le prophète Élisée, pria. Et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que finalement, devant les dangers, quels qu'ils soient, de quelque nature que ce soit, je crois que le croyant a un refuge, il a une réaction, il a une attitude à avoir, c'est de prier. Voilà, c'est pas de gesticuler dans tous les sens, c'est pas de remuer d'une manière ou d'une autre, mais c'est de prier. Et il dit, le prophète dit, Éternel, il prie. Et il dit, Éternel, ouvre ses yeux, en parlant de son serviteur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. C'est la prière de l'Esprit, c'est la prière par l'Esprit. C'est la prière qui ne se fie pas à l'environnement, aux choses que nous pouvons identifier autour de nous et qui sont si troublantes, qui quelquefois nous renversent, comme Pierre lorsqu'il marche sur le lac, marche sur les eaux, et puis à un moment donné, Jésus lui dit « viens, il y va », il regarde à Jésus, mais à partir du moment où il entend le vent, il regarde les vagues, eh bien il sombre, et là, à ce moment-là, eh bien il perd en quelque sorte, hein, il coule. Les prières, la prière dans l'esprit, pour nous montrer que l'aveuglement de ce serviteur, comme notre aveuglement, peut être vaincu. Les yeux ouverts, c'est-à-dire que nous voyons ce que les autres ne voient pas, mais c'est que Dieu nous donne de voir et de prendre la mesure de tout cela. Et ça augure un autre don que nous allons définir, que je vais définir maintenant, c'est le discernement des esprits. Vous aurez tout loisir de relire la première lecture que nous avons faite dans 1 Corinthiens tout à l'heure, mais une chose qui est certaine, c'est que le don des esprits est défini de cette manière. C'est l'aptitude surnaturelle et ponctuelle, c'est pas quelque chose que c'est pas tous les jours, hein, mais ponctuelle, dans des circonstances particulières, à discerner, à avoir cette perspicacité, à discerner ce qui vient de l'homme, ce qui est humain donc, ce qui vient du malin, ce qui vient du mal, du diable, et ce qui est divin. C'est-à-dire, c'est apprendre à discerner l'origine et la nature des choses. Et nous nous apercevons qu'à ce moment-là, eh bien, la nature des choses, eh bien, est clairement révélée, parce que à partir du moment où Dieu va exaucer la prière d'Élysée pour son serviteur, qu'est-ce que a fait le serviteur? Il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. C'est-à-dire qu'il y avait des chars de fer, des chars comme toutes les armées, hein, d'une manière ou d'une autre, avec des armes de destruction. Mais là, il s'agit de chars de feu. Ça, c'est une autre dimension, le feu. Et nous voyons que derrière tout cela, eh bien, il y a peut-être l'image du jugement de Dieu, l'image de la victoire triomphante, du triomphe de Dieu, des chars de feu. Dans la suite, et pour terminer, il est question encore d'un autre don que nous allons définir, hein, je vous ai dit qu'il y en avait cinq. Les Syriens descendirent vers Élysée, donc ils sont arrivés à rentrer dans la ville. Ils sont arrivés à aller jusqu'à Élysée, ils descendirent vers Élysée, hein, jusqu'à proximité où était Élysée. Et à ce moment-là, quand les choses étaient dans cette proximité, nous voyons que le prophète adressa alors cette prière à l'Éternel. Il va demander à Dieu, il ne va pas prier comme il l'a fait la première fois pour son serviteur, il va s'adresser à Dieu et il va demander une chose. Il va dire « Daigne frapper d'aveuglement cette nation ». Voilà. Après avoir prié pour que son serviteur ouvre les yeux, maintenant il va demander à ce que tous ses ennemis, tous ces gens qui veulent le tuer, le mettre à mort, eh bien là, puisse être frappé d'aveuglement. Ça va dans un sens comme dans un autre, hein, d'une manière ou d'une autre. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Et là, c'est extraordinaire, parce que nous avons un fait semblable, plusieurs faits semblables. Dans l'histoire biblique, c'est l'histoire de Lot, lorsque la populace veut tuer Lot dans sa maison, et nous est dit qu'il y avait des anges qui étaient là, qui ont frappé d'aveuglement toute cette populace qui ne savait plus où aller. Ils étaient tombés finalement dans l'obscurité. Ils n'ont pas pu faire de mal à Lot et à toute sa famille qui était réfugiée. Lot, le juste. Et lorsque nous voyons par exemple les disciples d'Emmaüs, là lorsque ils vont marcher avec Jésus sur le chemin pendant un bon bout de temps, il nous est dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, de le voir. À un moment donné, dans un fait particulier, il nous est dit que Dieu ouvrit les yeux de ces mêmes disciples et ils ont reconnu Jésus. Ce Jésus qu'ils ont vu crucifié et qu'ils voyaient maintenant ressuscité. Donc, le fait, ça c'est une parole, tout simplement, la parole, le don du miracle. Et si je dois le définir, le don du miracle, c'est tout simplement l'opération surnaturelle, miraculeuse, voire même prodigieuse, contraire aux lois de la nature. La loi de la nature, c'est que lorsque nous ouvrons les yeux, nous voyons, pour ceux qui sont avec une vision saine, mais contraire aux lois de la nature, et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, ça s'exerce sur la nature et la matière, parfois suite à la prédication de l'évangile et confirmant la parole de Dieu. On le voit dans le cas d'Élimas dans le livre des Actes des Apôtres, on peut le retrouver, où à un moment donné, cet homme qui était un magicien, Élimas, et qui était un magicien, qui était un perverti, qui était un occultisme, à un moment donné, devant la méchanceté de cet homme, l'apôtre Paul demandera à ce qu'il soit frappé d'aveuglement. Et un aveuglement qui va lui tomber dessus, et il va devenir aveugle pendant un certain temps. Ça, c'est le don du miracle. Alors, devant tout cela, eh bien, nous avons fait un petit peu l'étalage de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, le don de foi, le don des miracles, où nous avons pu expliquer à travers ce texte qui présente bien les choses, parce qu'il y a tout ce développement qui nous est présenté. Et pour nous dire simplement, pour clore ce message, c'est que avec Dieu, rien n'est jamais secret. Lui connaît tout. Dieu est le Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui est présent partout. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'actualité. Ça fait partie encore de notre temps, de notre monde. Et je pense que dans les études que nous pouvons faire sur la parole de Dieu, il y a tant et tant à dire et à faire. Et je crois pertinemment que cette vieille histoire qui remonte à des siècles et des siècles du prophète Élisée, à travers ce que Jésus a pu opérer, à travers cette manifestation de la vie de l'Esprit lorsqu'il était sur la terre parmi les hommes, et je crois que même au 21e siècle encore aujourd'hui, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, le don de foi, le don des miracles, c'est encore une réalité de la Pentecôte, du monde de l'esprit, des églises chrétiennes charismatiques, parce que nous savons que Jésus le dira lui-même, quand il parle, quand il dit ses propos, que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Eh bien, moi, je crois encore une fois de plus que toutes ces belles histoires de la Bible, d'hier et même de jadis, que ce que nous rapporte la Bible, parce que c'est un livre vrai, c'est un livre authentique, eh bien, c'est aussi encore pour nous et pour la bonne raison que quelque part, eh bien, Dieu est éternel et que nous-mêmes, nous sommes que de passage, mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de danger, lorsqu'il s'agit de connaître, non pas connaître pour connaître avec une vaine curiosité, mais quand il s'agit de choses importantes, Dieu est capable de nous révéler, eh bien là, ses secrets à travers, tout simplement, eh bien là, ces manifestations et pour nous arracher à un danger, pour nous guérir, pour nous délivrer de nos ennemis, de toutes sortes de choses. Donc, rien n'est vraiment secret et nous pouvons trouver sans vaine curiosité, je le répète, mais je pense que le Seigneur est là pour nous accompagner. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conduirai, je t'enseignerai, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Alors voilà, nous pouvons tout simplement nous incliner et remercier le Seigneur pour cette parole de ce matin. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Tu bénis cette parole. Tu la bénis, Seigneur, pour tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui l'écouteront demain, tous ceux qui ouvriront la Bible, encore pour la lire, et puis tous ceux qui l'écouteront à travers, eh bien, Père éternel, ce moyen que nous avons aujourd'hui de pouvoir, transmettre au loin par ces moyens audio, tout simplement, Seigneur, ce que tu veux nous dire, et tu rassures, tu consoles, tu visites, tu fais du bien, tu délivres, tu libères, au nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.